Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal avec Jacques-Yves Moliman.
Faciliter les commerçants transfrontaliers d'exercer leurs activités en toute quiétude à la frontière Rusizi Premier à Bukavu, au sud Kivu, entre la RDC et le Rwanda. Pour ce faire, un bâtiment moderne a été inauguré hier par le ministre des Commerces extérieurs, Jean-Lucien Boussa. Et puis, publication des résultats de l'examen d'État édition 2022 à Butembo. Les candidats malheureux du groupe scolaire Cavalé ont tenté d'incendier les bâtiments de leur école hier mercredi. Ils accusent leurs autorités scolaires d'être à la base de leur échec. Enfin, nous recevons dans cette édition Marcel Sagali Kaïté, chef de division de production et transport à la centrale hydroélectrique de Bendera de la SNEL, qui est située à plus de 100 km de Kalemie. Il nous parlera du projet de réhabilitation, modernisation et extension de cette centrale qui est en cours. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. La frontière de Rusizi Premier entre la RDC et le Rwanda offre un nouveau visage désormais. Elle est dotée d'un bâtiment moderne dont l'inauguration par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a eu lieu ce 24 août à Bukavu. L'objectif est de faciliter aux commerçants transfrontaliers d'exercer leurs activités en toute quiétude. Jean Kassami.
Quand on compare les infrastructures d'antan à celles qui sont construites, l'écart est très énorme. Les bâtiments administratifs à deux niveaux reflètent la modernité avec une quarantaine de locaux. Le ministre du Commerce extérieur demande aux services de l'État non autorisés de libérer l'espace frontalier des Rusizi Premier. Jean-Luc Boussa décrit l'ouvrage transfrontalier de même standard aux frontières Rusizi Premier pour le sud Kivu et Kasindi au nord Kivu.
Les infrastructures transfrontalières dont il est question ces jours sont constituées chacune, à Kasindi comme à Rusizi Premier, d'un bâtiment administratif de deux niveaux, un parking moderne, un poste de sécurité, une esplanade de piétons, un poste de police, des toilettes publiques, un bloc technique, une citerne en haut de 200 mètres cubes, un parking en port en béton armé, un parking sport, un parking personnel, une fosse septique, un marquage sur la chaussée, un pont et une clôture. En outre, des scanners pour les personnes et les marchandises sont installées également pour rendre les procédures plus souples.
La qualité des infrastructures attire les petites commerçantes, mais elles insistent sur la nécessité de réduire les tracasseries, bref, l'amélioration des climats des affaires. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Autre nouvelle, certains habitants du territoire de Sakania dans le Haut-Katanga sont descendus dans la rue pour dénoncer la politique du recours à la main-d'œuvre étrangère qui est appliquée par les entreprises sous-traitantes de Frontier Mining. Pour le président de la société civile locale, les communautés locales ne se retrouvent pas dans cette politique qui crée des frustrations. Pour cela, les manifestants ont réclamé le départ de celui qui est chargé du recrutement car son attitude crée le malaise social dans la communauté. On écoute Jean Ouondo, président de la société civile de Sakania, joint par Jean Gadou.
La population y ont manifesté l'injustice qui se passe au sein de l'entreprise Frontier Mining. Ils sont partis du chef-lieu du territoire à 9 km de là où se trouve l'entreprise Frontier Mining. Cette fois-ci, il y a leur sous-traitance qui engage que les gens qui viennent de très loin et n'arrivent pas à engager les autochtones. Ils ont lu un mémo réclamant l'engagement de la population et le départ de celui qui est chargé de l'engagement, parce que ça fait longtemps qu'on lui dit, il n'arrive pas à comprendre. Des mémoires ont été remis entre les mains des responsables de l'entreprise Frontier Mining. Il a dit d'attendre, de patienter et ils vont revenir à la raison. Cette sous-traitance s'occupe de l'alimentation des travailleurs. Est-ce qu'il y a une formation pour chercher des légumes au marché? Quand bien même il y a une formation pour préparer les histoires, ça peut prendre combien de temps? Comment on ne peut pas former les autochtones à cette matière?
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la partie incriminée sont restés vains. Et puis, lancement hier mercredi dans le territoire de Madimba de la campagne agricole du manioc en vue de la production de la farine n'est pas négligeable. Ce projet de la présidence de la République exécute la cellule d'appui au programme d'urgence et intégré du développement communautaire vise, d'après Philippe Ngwala, conseiller spécial du chef de l'État et responsable de cette cellule, à lutter contre l'insécurité alimentaire en réalisant la substitution de la farine panifiable du manioc après la rareté et hausse de la farine de blé engendrée par la guerre en Ukraine. Selon Philippe Ngwala Malemba, grâce au flux du manioc que ce projet va générer, la RDC sera dotée de la capacité d'exporter au niveau régional et international. Nana Plurich Mambou.
Ces projets de la présidence de la République, lancés à travers de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement local CAPUID, concernent toute la RDC. Il est financé par la Banque africaine de développement à la hauteur de 52 millions de dollars. À en croire Philippe Ngwala Malemba, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CAPUID, ce programme a trois axes. Le lancement de la campagne agricole du manioc en est le premier. Le deuxième consistera à la production intensive de la farine panifiable du manioc. Enfin, le dernier, c'est l'installation des unités de paquetage aux normes et standards internationaux. Selon lui, ce vaste programme est lancé dans l'objectif de remplacer de plus en plus la farine du blé par celle du manioc. Ce qui permettra à la RDC de répondre à la hausse du prix de la farine de blé ayant engendré sur le plan national la diminution du volume du pain avec un impact de prix sur les pâtissiers et les biscuitiers. Grâce à ces projets, les devises seront injectées sur l'économie nationale puisque la RDC se dotera d'une capacité très élevée de production de la farine de manioc panifiable pour vendre ses made in RDC non seulement au niveau national mais également régional et international. La cérémonie marquant le lancement de ces projets a lieu en présence d'une panoplie de personnalités dont les ministres nationaux de l'agriculture et du développement rural ainsi que du gouverneur du Congo central Guy Bantundungidi. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les Nations Unies redoutent l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues en 2023 en République démocratique du Congo. Selon un article de l'Africa Intelligence publié mercredi citant un rapport d'experts de l'ONU, plusieurs défis expliquent cette crainte et des scénarios sombres sont prévisibles. En effet, à la demande de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la mission d'évaluation des besoins électoraux de l'ONU a déployé en début d'année et a finalisé son rapport. Il s'agit des deux experts électoraux mandatés par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui ont cartographié les risques de conflits avant, pendant et après les élections de 2023. Grâce à Mzati, nous en fait le point.
Le premier défi selon ces rapports est d'ordre sécuritaire à l'est du pays où opèrent toujours une centaine de groupes armés dont les M23 et l'ADF. L'état de siège toujours en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri où toute activité politique reste théoriquement suspendue laisse craindre des obstacles majeurs pour l'organisation et la tenue du scrutin, note ces rapports. Ainsi, les consultants du PNUD constatent qu'un glissement du calendrier est désormais possible. À cela s'ajoutent les déficits financiers pour les élections dont le coût est estimé à 900 millions de dollars. La CENI est encore loin de récupérer les 640 millions de dollars sollicités pour l'année 2022, indispensables à l'achat du matériel électoral. Ces experts mandatés par les PNUD mettent aussi en exergue l'inquiétude autour de la volonté du pouvoir en place de contrôler les institutions en charge du pouvoir, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, trois scénarios semblent se dégager aux yeux des experts de l'ONU. Le premier verrait les Francs communs pour le Congo FCC de l'ancien président Joseph Kabila s'entendre avec la majorité actuelle pour garantir sa présence au sein des deux chambres du Parlement. Le deuxième scénario verrait pour sa part la formation de Joseph Kabila s'entendre avec un autre partenaire de l'opposition pour mener le combat dans les urnes contre Félix Tshisekedi. Enfin, le troisième scénario est celui de tous les dangers pour le pouvoir actuel. Il prévoit un boycott du scrutin par les FCC et son clan, cherchant à travers leur influence sur les forces de sécurité à pourrir les processus électoraux, avec pour conséquence une interruption des opérations électorales et le début d'une crise politique majeure, ouvrant sur une période de transition et de nouvelles élections.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, la publication des résultats des examens d'État édition 2022 est amorcée depuis quelques jours. Cependant, dans la province éducationnelle de l'EPST Nord Kivu 2, qui couvre la région de Beni, Butembo, Lubero, si certains fêtent leur réussite, d'autres sont mécontents de leur échec. C'est le cas de Butembo, où une équipe d'élèves finalistes de l'école groupe scolaire Cavalé ont tenté d'incendier les bâtiments de leur école hier mercredi. Ces derniers accusent les autorités scolaires d'être à la base de leur échec. Les détails avec Blaise Ndongala.
Ces élèves accusent leurs autorités scolaires d'avoir détourné leurs frais de participation aux examens d'État. D'après eux, suite à leur insolvabilité, ils ont été frustrés durant toute cette session ordinaire. Mercredi matin, ils ont tenté de brûler les bâtiments de l'école pour contester ainsi leur échec aux examens d'État. Selon des témoins, ils ont d'abord brûlé les tableaux et quelques pupitres. La police est intervenue pour éviter le pire. Les manifestants rapportent que seuls 8 élèves sur 100 ont réussi, comme explique l'un d'eux.
Nous sommes là parce que nous sommes fâchés du résultat de l'examen d'État de l'année scolaire 2021-2022. Ce qui est arrivé à notre école, c'est à propos des autorités. Parce que là, au centre, on parlait qu'on n'a pas encore payé les frais scolaires. C'est ça le problème. On avait payé parce qu'on avait des preuves, on avait des récits. Ce qui montrait qu'on a déjà payé les frais des examens d'État. Nous étions à 100 finalistes, mais 8 récits. On avait posé des questions aux autorités, mais ils nous avaient refusé de nous donner des réponses. On avait donné aussi néant l'année passée aussi, encore cette année.
Contacter des sources proches des incriminés disent ne pas comprendre l'ajustement de ces élèves. Tout en rejetant les accusations avancées, elles invitent ces candidats à attendre la sortie complète des résultats. Pour sa part, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 condamne ces comportements. Il appelle ses élèves à se mettre au travail, mais également aux autorités scolaires à revoir leur méthodologie d'enseigner en vue de la réussite pour éviter pareille situation.
Toujours Nord Kivu, ils sont des dizaines d'élèves et écoliers déplacés des guerres qui s'interrogent sur leur avenir de la rentrée scolaire prochaine. En effet, ces enfants et leurs parents ont fui leur village du territoire de Rutshuru depuis environ 3 mois maintenant. C'est à cause des hostilités entre l'armée loyaliste et les rebelles du M23. Installés dans au moins 5 écoles et autres lieux publics dans les Nyiragongo, ces élèves observent désespérément leurs semblables prendre les inscriptions dans des écoles où ils ont trouvé refuge. Face à cela, la société civile le territoire de Nyiragongo s'interroge elle aussi sur l'avenir de ses élèves déplacés ainsi que celle des écoles occupées par les déplacés. Elle plaide auprès de l'État congolais de trouver une solution urgente. On écoute à ce sujet Thierry Gassisiro, secrétaire de la coordination de la société civile de Nyiragongo.
Lors de ces inscriptions, on pouvait observer un afflux des parents qui venaient solliciter des places pour leurs enfants. Mais de l'autre côté, on pouvait observer un sentiment de désespoir du côté des déplacés qui observaient impuissamment les parents qui venaient inscrire leurs enfants. Plusieurs questions sont restées sans réponse. Comment les cours seront organisés dans ces écoles-là occupées par les déplacés de guerre? Est-ce que les enfants des déplacés de guerre aussi vont étudier? Et s'ils vont étudier, où ils vont étudier? Et comment seront organisés les cours? Comment ils seront pris en charge? D'où auront-ils les fournitures scolaires? Car leurs parents sont démunis, ils ont tout laissé, ils ont difficile à avoir de quoi manger. Seront-ils capables d'obtenir les fournitures scolaires pour les enfants? Et que donc toutes ces questions-là restent sans réponse. Nous, nous sommes en train de demander au gouvernement congolais, ainsi qu'aux hommes de bonne volonté, de vouloir jeter un œil de compassion à l'égard de ces enfants-là déplacés, pour voir dans quelle mesure ces enfants vont aussi accéder aux cours, car l'éducation scolaire est un droit garanti pour tous les enfants congolais.
Et on parle santé dans cette édition journal. Désormais, la province du Maniema est à mesure d'organiser la campagne préventive contre la fièvre jaune. Si et seulement si, tous les moyens sont mis à sa disposition. Après un atelier de 5 jours, les cadres des zones de santé ont défendu tous les besoins en rapport avec l'organisation de cette campagne. Docteur Walumba Omari, médecin-chef d'antenne Peuve Kindu, revient sur les conclusions de ses travaux au micro de Florence Kizalunga.
Ce qu'on peut retenir de ces assises, c'est que toutes les zones de santé ont exprimé leurs besoins pour pouvoir organiser une campagne de qualité contre la fièvre jaune. Alors, en termes de besoins, dès lors que toutes les zones de santé ont fini de présenter leurs besoins, en termes de ressources humaines, on aura besoin de plus de 700 sites ou équipes de vaccination pour organiser cette campagne dans les zones de santé. Et chaque site sera constitué de 6 personnes. Et en termes de ressources matérielles, on aura besoin des engins roulants, notamment des véhicules, des motos, comme c'est une grande campagne. Tous ces engins-là vont être utilisés soit pour le transport des vaccins, soit pour la mobilité du personnel qui va être affecté dans le cadre de la supervision des activités. Et même les besoins en vaccins a été également exprimé pour chaque zone de santé. On aura besoin d'environ de plus de 1 million de doses de vaccins pour pouvoir vacciner la cible de cette campagne.
Et puis en plus bref, au Nord Kivu, la situation reste tendue et qualifiée de préoccupante par plusieurs sources sur l'axe Rutshuru, Rwanguba, Bunagana. La zone est le théâtre des affrontements intermittents depuis 2 semaines maintenant entre les FARDC et les rebelles du M23, notamment autour du village de Rangira. C'est dans le groupement de Djomba, territoire de Rutshuru. Selon les sources civiles et administratives locales, en début d'après-midi hier mercredi, des tirs d'armes lourdes et légères ont encore été entendus dans la zone. Elle précise que les rebelles du M23 qui occupent depuis la semaine dernière la colline Mukangarange, surplombant Rangira, ont lancé plusieurs obus en direction de la position des FARDC dans la zone. Quelques-uns ont atterri sur le village Rukoro, près du chef-lieu du territoire, ce qui a poussé encore d'autres habitants à fuir le lieu vers Bouraï. Une accalmie est observée la nuit, mais la situation reste imprévisible, disent ces sources. En Ituri, les groupes armés Forces de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI et Front patriotique et intégrationniste du Congo réitèrent leur engagement à rester dans le processus de paix en cours dans cette province. Ils l'ont dit ce mercredi à Bunia, à l'issue des consultations entre les autorités et des représentants des communautés Bira et Ngiti associés aux délégués de ces milices signataires de 2 actes d'engagement. Cependant, ils recommandent entre autres leur prise en charge par le gouvernement et le début effectif du programme DDRCS. Marcel Kizabiamungu.
C'est hier mercredi que la première série des consultations a pris fin entre les autorités militaires et des notables de la communauté Lendubindi, associés aux représentants du groupe armé Forces de résistance patriotique de l'Ituri FRPI. Des jours durant, les responsables de cette milice ont réaffirmé leur volonté de rester dans les processus de paix malgré certaines difficultés liées notamment à la logistique. Ils ont recommandé la prise en compte par le gouvernement congolais de leur cahier de charge pour un aboutissement apaisé du processus de paix. Il y a une semaine, le FPIC qui réitérait déjà son engagement à poursuivre avec ce processus. Cependant, la prise en charge reste le problème commun à ces 2 groupes armés. Selon la section des affaires civiles de la MONUSCO à Bunia, qui facilite ces rencontres, un plan d'action de bonne conduite des miliciens en attente des pots du débit effectif du programme de DRCS sera mis en place à l'issue de ces rencontres. À noter que la semaine prochaine, ces consultations vont s'étendre au groupe armé Codeco. Nous n'avons pas réussi à joindre le coordonnateur provincial du PDDRCS à l'Ituri à CCJ. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a affirmé mercredi avoir obtenu une promesse de coopération totale de Khartoum dans le dossier du Darfour, vaste région de l'ouest du Soudan où les violences ont fait des centaines de milliers de morts.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Marcel Sagali Kaïté. Il est chef de division de production et transport à la centrale hydroélectrique de Bendera de la SNEL, qui est située à plus de 100 km de Kalemie. Il nous parle du projet de réhabilitation, modernisation et extension de cette centrale qui est en cours. Il s'entretient ici avec Paulin Mounanga. Suivez.
Monsieur Marcel Sagali Kaïté, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est l'état des lieux actuellement de la centrale hydroélectrique de Bendera, qui a été mise en service depuis juillet 1959.
Nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui que la centrale hydroélectrique de Bendera est vétuste. Les 2 groupes turbo-alternateurs installés vers les années 56 et mis en service en 1959, au mois de juillet, avec 2 groupes turbo-alternateurs de 8,6 MW par groupe, ce qui fait une puissance installée de 17,5 MW. Ces 2 groupes sont vétustes, ainsi que les ouvrages amont et même ouvrages aval et les auxiliaires. Il est temps que ces groupes soient réhabilités et la SNEL a financé les travaux de réhabilitation de l'existant, donc les 2 groupes turbo-alternateurs, groupe numéro 1 et groupe numéro 2. Et nous avons eu un financement des FPI, Fonds de promotion industrielle, qui ont contribué avec 20 millions de dollars américains pour l'extension du troisième groupe turbo-alternateur.
Monsieur le chef de division, j'ose croire que l'installation de ces troisième groupes va mettre fin au système de délestage qui prévaut ici à Calémie.
Et avec le projet de réhabilitation, modernisation et extension de la centrale hydroélectrique de Bendera, de la ligne 132 kV haute tension Bendera-Calémie et du réseau de distribution de la ville de Calémie, nous aurons une capacité de trois groupes, donc une capacité de production de 25,8 MW avec un besoin de 17 MW. Nous pouvons éradiquer le délestage. Mais on ne peut pas d'emblée dire qu'on aura délestage zéro parce que nous avons des clients potentiels qui sont à l'arrêt, tels que l'usine de Kabimba et de Makala.
Parlons à présent de ces problèmes qui préoccupent la population de Calémie en ce moment. C'est le curage du lac des retenues qui se trouve au niveau du barrage de Kiimbi. La population a été informée que le 15 août dernier, il devrait y avoir une coupure généralisée et sèche, donc sans espoir de voir le courant pendant tout au plus un mois. Où en est-on avec ce projet de curage du lac des retenues?
Le lac des retenues au barrage de Kiimbi à Bendera nécessite le curage. Pourquoi? Depuis l'installation, les travaux de curage ont déjà eu lieu en 1971 et depuis 71 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce lac n'a jamais été curé, ce qui fait que même la profondeur au niveau du barrage, qui est de 12 mètres, pour l'instant 9 mètres est occupé par la boue, les pierres, les sables, les arbres, et nous n'exploitons qu'avec 3 mètres. Donc le volume d'eau est réduit et même la surface du lac est réduite.
Mais comment expliquer le fait que depuis 1971, on n'a jamais curé ces lacs de retenue? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pendant 40 ans, qu'est-ce qu'on attendait pour curer régulièrement ces lacs?
Nous faisons la continuité des travaux. Moi, je suis arrivé ici en 2011. J'étais muté de la division de Mwadingu Chakoni à la division production et transport Bendera. De 2011 à ce jour, ce n'est pas 40 ans. Au moins, moi, je viens de penser, j'ai proposé à la haute hiérarchie que ces travaux puisse se faire. Demander dans 40 ans pourquoi ça n'a pas été fait, je ne saurais pas répondre à cette question, mais je peux dire qu'il y a eu négligence parce que l'unique curage c'était en 1971 et nous allons faire le deuxième curage en 2022. Donc il y a eu un temps mort où les travaux n'étaient pas effectués et suivis et moi je ne saurais pas vous dire pourquoi parce que je n'étais même pas dans cette entité.
Monsieur Marcel Sagalikaité, je vous remercie.
Merci monsieur le journaliste.